Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκή εξουσία.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. La France a fait de la maîtrise de l'immigration l'une des priorités de sa présidence européenne. Elle va d'ailleurs présenter ce lundi et ce mardi à Cannes, devant les 26 ministres en charge de l'immigration, les grandes lignes de son pacte européen pour l'immigration et l'asile. Ce pacte invitera les 27 pays européens à prendre 5 engagements. Contrôler les frontières extérieures, organiser l'immigration légale en fonction des capacités d'accueil de chaque État, assurer l'éloignement effectif des immigrés en situation irrégulière, bâtir une Europe de l'asile et enfin promouvoir le co-développement. La mise en place de ces 5 objectifs implique des décisions précises qui inquiètent certains pays africains et qui sont fortement critiquées par les organisations de défense des immigrés. Sophie Bialag, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable du suivi des étrangers et des affaires européennes à la CIMAD. La CIMAD en un mot.
Donc c'est une association d'aide aux migrants et demandeurs d'asile.
Et Hélène Flautre, bonjour. Merci d'être
bonjour.
En ligne avec
bonjour.
Nous de Nantes. Vous êtes eurodéputée du groupe des Verts, présidente oui. de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement mm-hmm. européen, autant dit que vous suivez de très très près les problèmes d'immigration et ce pacte européen pour l'immigration et l'asile. Mm-hmm. Patrick Gobert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne de Bruxelles, où vous êtes vous aussi eurodéputé du groupe PPE-UMP. Vous suivez vous aussi les questions de politique d'immigration, puisque vous êtes le vice-président de la sous-commission des droits de l'homme au Parlement européen. J'ai pas besoin de vous présenter Hélène Flautre.
Non, bonjour Hélène.
Sophie Bialag, d'une manière générale, les organisations qui défendent les immigrés ont été très critiques sur une disposition adoptée par le Parlement européen il y a une quinzaine de jours et qui s'appelle la directive retour et qui statue sur les immigrés en situation régulière. Nous y reviendrons. Mais est-ce que vous contestez le droit aux Européens et à leurs représentants, c'est-à-dire les parlementaires et les gouvernements nationaux, de définir une politique d'immigration ?
Non, tout à fait non. Mais là, c'est vrai que ce qu'on a critiqué, c'était une mise en œuvre d'une politique qui visait en fait à un peu institutionnaliser des pratiques sur l'enfermement des migrants qu'on a constaté qui sont en cours dans l'Union européenne. Et c'est vrai que la CIMAD, qui est une association qui intervient dans les centres de rétention en France, a justement une expérience de terrain et connaît la situation des personnes qui sont retenues en vue de leur éloignement. Mais effectivement, le fait de définir une politique, il n'y a pas de problème, on ne voit pas de problème à ça.
Patrick Gobert, cette politique que la France va proposer à l'Union s'appelle immigration choisie et concertée. Croyez-vous qu'elle soit bien perçue par les autres Européens ?
La politique que va proposer Hortefeux, enfin la présidence française...
Oui, c'est Hortefeux, le ministre de l'immigration.
Et aujourd'hui, acceptée par l'ensemble des pays, et elle a été aussi, sur le principe, acceptée par une réunion que nous avons eue au Parlement sur l'ensemble des coordinateurs, qu'ils soient PPE, socialistes, verts, communistes, sur le principe. Il est venu nous donner ces 5 points. Sur ces 5 points, personne n'a rien dit. On l'attend, hein. Il suffit pas de nous présenter des points, il va falloir ensuite qu'on travaille, mais ces propositions, pour l'instant, sont acceptées. Il n'y a pas de souci pour l'instant.
Voilà. Hélène Flautre, est-ce que les Verts, qui ont été très critiques à propos de la directive retour, sont opposés ou pas à cette notion d'immigration choisie ou concertée ?
Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est la question des migrations forcées. Les gens sont obligés de quitter leur territoire en raison de la guerre, de la misère, des persécutions politiques, des impacts des dérèglements climatiques. Et l'enjeu de l'Europe aujourd'hui, c'est de se constituer comme un acteur à l'échelle mondiale capable d'organiser ces migrations pour faire que ces migrations qui sont aujourd'hui forcées et empêchées par tous les moyens, y compris par les moyens militaires, donc au prix de nombreuses violations de leurs droits, deviennent des migrations choisies. Ce sont les personnes qui doivent choisir de migrer et ces migrations choisies doivent être accompagnées, organisées de la meilleure manière possible. C'est évidemment pas le signal qui a été envoyé par l'adoption de la directive retour. Ce signal d'ailleurs qui a été extrêmement bien reçu, je pense aux démocraties d'Amérique du Sud, qui nous ont renvoyé comme signal leur désappointement et qui nous ont fait, et c'était heureux, une leçon de droits de l'homme en la matière.
Alors Patrick Gobert, qu'est-ce qui vous sépare d'Hélène Flautre ? Vous êtes d'accord l'un et l'autre sur la nécessité que l'Europe ait une politique d'immigration, mais qu'est-ce qui vous sépare ? Où est la ligne de fracture ?
D'abord, Hélène nous parle d'asile, de personnes qui doivent effectivement quitter leur pays parce que leurs droits sont bafoués. Mais en ce qui concerne l'asile, ça ne concerne pas la directive. Ceux qui viennent chez nous en Europe pour l'asile, nous avons l'obligation de les recevoir. Et dans le pacte européen que présentera la France, il y a bâtir une Europe de l'asile.
C'est le quatrième point.
Oui, mais ça, là-dessus, je veux dire, on ne peut pas discuter, mais on confond, voilà, c'est ça qui est terrible, on confond l'immigration économique avec l'immigration d'asile. Il n'y a pas à confondre. Il y en a une où nous n'avons pas d'obligation à recevoir les personnes, c'est l'immigration économique, et il y en a une où nous avons l'obligation de les recevoir et bien les traiter, leur donner tous les avantages, etc., c'est l'asile. Donc voilà, on commence déjà en confondant les deux. Donc sur l'asile, l'Europe et la France est totalement ouverte. Mais comme il y a des disparités de droit d'asile entre les différents pays de 27, où il y a des gens qui viennent dans un pays, c'est non, un autre, c'est oui, ça c'est intolérable. C'est-à-dire celui qui vient chez nous parce qu'il est persécuté chez lui, doit être reçu de la même façon dans les 27.
Monsieur Gobert doit certainement savoir qu'aujourd'hui, les réfugiés de la faim, les personnes qui quittent leur territoire devenu invivable à cause des réchauffements climatiques ou des dérèglements climatiques, plus exactement, ne sont absolument pas couverts par une protection internationale et ne sont pas concernés par le droit d'asile. J'ajoute par ailleurs que depuis 2000, le nombre de demandes d'asile aux frontières dans les territoires de l'Union européenne a été divisé par deux. Ça montre à quel point il est difficile aujourd'hui pour les personnes en demande de protection internationale de venir taper à la porte de l'Union.
Alors, sur les politiques de migration, ne sont pas quand même exclusivement consacrés aux demandes d'asile. Il y a avant tout une demande d'immigration économique. Sur la notion d'immigration choisie ou concertée, est-ce que tout le monde est d'accord sur ce thème? J'aimerais le savoir. Hélène Flautre.
Moi, je suis pour le concept de migration choisie. C'est-à-dire le fait que les personnes qui décident de quitter leur pays pour, par exemple, étudier, pour se former, pour travailler, pour chercher protection ou pour chercher une vie meilleure, eh bien que ces personnes puissent être accompagnées dans leur parcours et ne soient pas confrontées à ce qui est aujourd'hui le parcours du combattant et de tous les dangers.
Serge Daniel, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes le correspondant de RFI à Bamako, au Mali, et vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle « Les routes clandestines » aux éditions Hachette, où vous racontez votre aventure, je mets tout ça entre guillemets, dans la peau d'un immigrant clandestin. Alors, cette notion d'immigration choisie, d'immigration concertée, est-ce qu'elle choque en Afrique? Est-ce qu'elle est comprise?
Elle n'est pas du tout comprise. Hein. Quand vous discutez avec des étudiants, des intellectuels, ce qui revient le plus, c'est que l'immigration choisie a été concoctée, disons, pour freiner la pression du sud sur le nord. Or, aujourd'hui, vous avez plusieurs situations. Vous avez des milliers de ressortissants africains qui sont dans leur pays, qui ont envie de partir, parce qu'ils n'ont pas de boulot. Hein. Ils s'en vont aussi parce qu'il y a la pression familiale. La famille se cotise pour leur dire partez, partez pour chercher le bonheur pour tous. Vous avez des milliers de ressortissants africains aussi qui sont aujourd'hui bloqués sur les routes de l'immigration clandestine. Vous les voyez en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, un peu partout. Et il y a ceux qui vivent comme des rats en situation irrégulière en France, en Europe, disons. Hein. L'impression que la vox populi ici, la France, est en train de concocter une politique pour empêcher tout simplement les Africains de partir en France. Mais à côté de cela, il faut être réaliste dans le discours politique aujourd'hui. Lorsque j'ai rencontré le président malien récemment sur la question, ce n'est plus un discours de dire « il faut que l'Europe ouvre totalement ses portes ». Le discours évolue. Il y a par exemple aujourd'hui à Bamako, au Mali, sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez que le Mali est un pays de transit et de départ vers l'Europe, il y a une campagne de sensibilisation contre l'immigration illégale. Donc les choses évoluent. Ce que les Africains souhaitent réellement, c'est qu'au niveau, par exemple, de l'Union africaine, qu'il y ait un entretien, une réunion avec l'Europe pour que les gens discutent franchement, qu'on dépassionne les débats, mais qu'on ne leur impose pas un modèle d'immigration, Daniel.
Patrick Gobert, que répondez-vous à Serge Daniel? Est-ce que l'Europe est prête à discuter avec l'Afrique sur les modalités de ces flux migratoires?
Alors, d'abord, la commission dans laquelle je fais partie, c'est la commission des libertés, qui est compétente donc dans tous ces textes, et qui a toujours défendu les valeurs et les droits fondamentaux. C'est la même commission qui a travaillé durement pour obtenir que la charte des droits fondamentaux soit crédible. Donc on ne peut pas nous accuser d'être des fascisants voulant fermer l'Europe. Mais nous sommes à la place qui est la nôtre, des vigies. On voit et compare les manières des différentes politiques migratoires et leurs conséquences. En parlant par exemple d'Italie, où c'est là totalement inconséquent. Vous avez l'Italie il y a 2 ans avec un gouvernement X qui ouvre à 500 000 cartes de séjour, et vous avez l'Italie aujourd'hui qui ferme d'une manière un peu brutale et violente l'immigration. Quand on parle d'harmonisation, c'est des choses qu'on ne souhaiterait plus voir. Les pays ne peuvent pas changer comme ça d'un moment à l'autre parce que le gouvernement change. Il faut qu'on ait une sorte de concertation. Et c'est vrai que l'Europe ne veut plus voir des hommes et des femmes chez nous vivre d'une manière indécente, qui habitent dans des logements insalubres, qui travaillent souvent en noir, c'est une sorte d'esclavage moderne. Si ces hommes et ces femmes n'ont pas de travail, Nous devons les aider à rentrer chez eux avec un co-développement intelligent. Alors, co-développement, ça fait des années qu'on en parle. Moi, je vais souvent en Afrique. Je ne vois pas où est le co-développement pour le peuple. Je vois les 4x4 des dirigeants qui changent d'année en année, mais je ne vois pas dans le chemin qui m'amène de l'aéroport à mon hôtel une différence de vie des hommes et des femmes qui vivent dans un certain nombre de pays d'Afrique.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Hélène Flautre, est-ce que l'Europe sait vraiment ce qu'elle veut entre une Europe grande ouverte aux flux migratoires et une Europe forteresse? Est-ce que l'Europe sait vraiment ce qu'elle veut?
Écoutez, l'Europe en tout cas devrait essayer d'avoir une vision beaucoup plus large que celle de ses États membres. Or là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le cumul des visions à courte vue et très sensible à ce qu'on suppose être l'opinion publique dans les États membres, qui est aujourd'hui mise en œuvre à l'échelle de l'Europe. Et finalement, le pacte asile-immigration, c'est la proposition d'une politique pour l'Europe qui est celle de la France en plus grand. Et je crois que ça n'est pas du tout à la hauteur ni des défis, ni des ambitions, ni du projet européen lui-même. Il faut dire les choses avec clarté. L'Europe a puissamment et massivement besoin de migration. La proposition qui est faite, qui concerne en fait l'organisation d'un tri sélectif à la source dans les pays d'origine, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et M. Gobert doit savoir qu'aujourd'hui, si des personnes sont en situation de grande précarité ici dans nos pays, ça n'est pas qu'elles manquent d'emploi, c'est qu'elles manquent de papier. Les régularisations massives en Italie et en Espagne ont provoqué par exemple une hausse extrêmement importante du taux de croissance de ces pays, tout à fait dans le même temps. Donc je crois que nous devrions réfléchir à ces questions avec un peu moins d'hypocrisie, un peu plus de clarté, de pragmatisme et d'ambition.
Hélène Flautre, est-ce qu'il y a une perception différente des flux migratoires et des problèmes liés à l'immigration du nord au sud de l'Europe, de l'est à l'ouest? Les grands pays d'accueil, ce sont évidemment la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Mais lorsqu'on est finlandais, estonien ou polonais, on n'a évidemment pas le même regard. Alors, comment trouver une harmonisation européenne sur ces problèmes?
Je crois que si nous souhaitons construire réellement cette Europe, il faut une Europe où la libre circulation des personnes s'exerce clairement, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Il n'est pas pensable que chaque pays négocie son quota d'ingénieurs de telle branche avec tel pays, utilise tel type d'accord de réadmission avec tel pays tiers. C'est du bricolage, du marchandage, ça ne ressemble en rien à l'Europe que nous souhaitons.
Patrick Gobert, du bricolage, du marchandage.
Oui, Hélène parle de pragmatisme et de clarté. On voit par exemple que les régularisations massives n'ont rien amené de positif pour l'ensemble de l'Europe. On ne veut plus voir de régularisations massives parce que ça ne sert à rien. Sauf que si en Autriche, comme ils sont en train de le faire, ils ont décidé de régulariser de 10 à 15 000 personnes pour l'aide à la personne, parce qu'ils ont un manque extraordinaire, ça c'est intelligent. Et c'est ce que voulait faire, je crois, Brice Hortefeux ici, c'est les femmes qui sont venues avec leur augment familial, on va, pour un grand nombre de celles qu'elles souhaitent, leur donner une formation, parce que la plupart ne travaillent pas, on leur donnera une formation concernant l'aide à la personne, parce que nous avons des besoins extraordinaires, et si on doit permettre à des milliers et des milliers de femmes ou d'hommes à travailler en leur donnant des formations dans vraiment des boulots où on manque, ça c'est positif. Même si on en régularise 10 000, 15 000 dans les domaines où nous avons des soucis, ça c'est positif. Mais plus les grandes régularisations de 500 000, 600 000, l'Italie l'a fait, elle a des problèmes à n'en plus finir, l'Espagne l'a fait, elle a des problèmes à n'en plus finir, et même le président aujourd'hui espagnol, socialiste, ne veut plus en entendre parler.
Alors Sophie Bellac, lorsque vous entendez Patrick Gobert, à ce que vous dites, Patrick Gobert prononce des propos de bon sens ou pas?
Non, pas du tout, parce que finalement, si on prend l'exemple justement des régularisations massives en Espagne, ça a plutôt eu des effets positifs sur la croissance et aussi sur les besoins d'immigration. C'est vrai, ce qu'Hélène Flautre dit, c'est que l'Europe a vraiment besoin d'immigration. Et aussi, quand on voit que l'interdiction des régularisations massives, en fait, elle vient de cette peur d'un soi-disant effet d'appel qui n'a pas eu tant lieu que ça, justement, avec l'exemple espagnol. Et pour nous, cette volonté d'interdire les régularisations massives faite par un État de l'Union européenne, ça ne repose sur aucune logique.
Notre souci aujourd'hui, il faut être intelligent. Ce qu'on n'a pas fait tous avant. On sait que dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, nous allons avoir besoin de millions de personnes qui doivent venir chez nous parce qu'on a un manque extraordinaire et intellectuel et manuel de personnes. Je crois que notre rôle aujourd'hui, c'est de réfléchir à demain et se dire, nous aurons besoin de 10 millions de personnes. Comment peut-on faire, dès maintenant, d'une manière intelligente, d'amener une sorte de flux migratoire qui se fasse dans la sécurité et dans l'humanisme, de telle façon à ce que ces hommes et ces femmes qui de toute manière viendront chez nous viennent dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, ça veut dire qu'elles auront un travail, un logement, elles auront les mêmes droits, parce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur des directives sur les droits, les mêmes droits pour les immigrés en situation régulière et l'autochtone, ça veut dire le français et l'immigré en situation régulière doivent avoir les mêmes droits. C'est là-dessus, nous sommes en train de travailler sur la directive carte bleue, sur une procédure unique de l'entrée des immigrants dans les années à venir. Voilà, ça c'est du positif.
Hélène Flautre, Patrick Gobert évoquait il y a quelques minutes l'idée du co-développement. L'idée du co-développement, c'est de maintenir sur place, en favorisant le développement économique, les populations tentées par l'immigration. Pour l'instant, c'est peu de choses, hein. Même Patrick Gobert est très critique sur le co-développement. Quel est votre point de vue?
Mais dans co-développement, il y a co. Ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs. La politique de l'Union européenne aujourd'hui, c'est d'être l'acteur qui décide de où on va chercher les gens, de qui on a besoin, de combien on va en prendre et dans quelles conditions. Et donc ça n'a rien à voir avec le co-développement. Il y a au moins les acteurs migrants eux-mêmes, les pays de départ, de transit et d'accueil. Donc ça c'est une première réserve forte sur la politique qui est proposée aujourd'hui. On ne peut pas découper les gens en morceaux. On fait venir quelqu'un pour des raisons économiques. Mais ce travailleur, c'est aussi un amant, c'est aussi un père, c'est aussi un consommateur de loisirs. Donc les droits afférents au travailleur, c'est aussi celui du regroupement familial. Donc il est totalement absurde d'opposer, comme le fait M. Hortefeux, le concept de migration désirable, choisie, qui est économique, et celle qui serait contrainte et imposée, et qui serait celle du regroupement familial. Est-ce que ça veut dire que les gens seront autorisés à venir le temps du contrat de travail sans leur famille et retourneront après dans les pays sans droit à l'installation, par exemple?
Alors, c'est évidemment bien des questions. J'ai envie de donner à Serge Daniel le mot de la fin. Est-ce que la politique d'immigration européenne est compréhensible? Est-ce que cette notion de co-développement, vue d'Afrique, ça a un sens ou c'est une vue de l'esprit?
Écoutez, le co-développement ne résout pas le problème de ces places. Encore une fois, il faut dépassionner le débat. Ce n'est pas des modèles importés qu'il faut. Il faut discuter avec tout le monde. Si vous prenez aujourd'hui dans la région de Kayes au Mali, c'est la région d'origine de la quasi-totalité des Maliens résidant en France, on a beau fermer les frontières, ils s'en vont toujours. Ce que les gens demandent, par exemple, sur place, quand vous allez là-bas, c'est de créer une banque, par exemple, d'investissement. Parce que les Maliens de Kayes résidant en France envoient chaque année au pays plus de 180 millions d'euros. C'est plus que l'aide française en matière de coopération avec un pays comme le Mali. Donc créer par exemple une banque d'investissement dans cette région-là, organiser des crédits qu'on appelle crédits revolving, c'est-à-dire des microcrédits, mais qui permettent aux gens d'emprunter, de rembourser par exemple pour que l'esprit de prêt se perpétue, voilà des pistes. Mais ce n'est pas des mesures médiatiques qu'il faut prendre pour pouvoir résoudre le problème. C'est trop loin de la réalité, c'est-à-dire régularisation massive, ce n'est pas la solution, expulsion massive, ce n'est pas la solution. Il faut sortir d'abord ceux qui sont en Europe de la clandestinité. L'Europe pas le droit aujourd'hui quand même de savoir combien de clandestins se sont payés. Mais c'est très facile de notre côté, Daniel, de parler tout le temps du Nord. Le Sud est aussi responsable. Les gouvernements du Sud sont responsables aussi de ceux qui arrivent à leur ressortissant. Il est de leur rôle, de leur devoir de s'occuper de cette jeunesse. Alors vous savez qu'aujourd'hui, sur 3 Africains, 2 ont moins de 25 ans, si on ne s'intéresse pas à leur avenir, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on ne parlera plus d'Afrique, à mon avis.
Merci, on a bien compris que la nécessité d'un dialogue entre l'Europe et l'Afrique et les autres grandes zones de migration. Hélène Flautre, Patrick Gobert, Sophie Bellac, Serge Daniel, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Liane Clancier, Jean-Marc Meunier, Julien Jaffray qui ont tantôt préparé cette émission, qui l'ont tantôt réalisée. Merci à Gilles Lebéon de France Bleu Loire-Océan. Sur le site RFI.fr, onglet radio, émission Carrefour de l'Europe, vous retrouvez toutes les informations sur nos invités, les titres de leurs ouvrages et des liens très utiles. Et vous pourrez bien sûr réécouter ce Carrefour de l'Europe et les archives de l'émission et vous abonner gratuitement à la balade de diffusion, autrement dit au podcast de Carrefour de l'Europe. Daniel Desescales, je vous souhaite une bonne semaine européenne.
Pour réagir à l'émission, carrefour.europe@rfi.fr.